Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se
lève. Salut Michel.
Salut Catherine, comment vas-tu?
Ça va très bien, très bien. Écoute, surpris de voir Éric Guy se retirer?
Ben, pas surpris du tout parce que je sentais ça venir, surtout après ses déclarations cette semaine. Il y avait eu des blessures à Manuel Osborne Paradis, à un autre de ses jeunes coéquipiers, le jeune Thompson, qui s'était fracturé une jambe, et on voyait que ça a touché Éric Guy, et il y avait déjà des doutes dans son esprit. Il songeait à la retraite, et ça a été, je pense, deux éléments déclencheurs. Et lorsque tu pratiques un sport de fou, comme le ski alpin, comme la descente, par exemple, il faut que tu sois concentré à 100%. Si tu n'as pas la tête à ça, les risques sont énormes. Et déjà, Éric Guy, qui était handicapé par de nombreuses blessures au dos notamment, il a eu plusieurs chirurgies. Je pense qu'il a pris la meilleure décision avec une femme puis quatre petites filles qui l'attendent à la maison. À 37 ans, il n'y avait plus rien à prouver. Je regarde 25 podiums en Coupe du Monde, 5 victoires, un globe de cristal en Super G, 3 médailles aux championnats du monde. Ce qui lui manquait, c'était une médaille olympique. Il a tellement passé près. 4e rang du Super G à Turin en 2006. Il est 2 fois 5e à Vancouver au Super G. Il a tout fait dans sa carrière. C'est le plus grand skieur de l'histoire du Canada. En tout cas, le plus grand de l'histoire du Québec. Il a devancé depuis longtemps Peter Duncan. Et je pense qu'au niveau canadien, Éric Guy est passé devant Steve Podborski, qui a remporté une médaille olympique, et Ken Reid. C'est le plus grand des plus grands. Mais malheureusement, je dois dire que chez nous, il était méconnu. Je vais te donner 2 exemples.
Ouais.
Il y a un soir au Centre Bell, il revient des championnats du monde alors qu'il est médaillé d'or. Durant une pause, on présente des gens des fois qui s'embrassent ou on fait un tour pour aller voir des enfants ou des belles filles dans les estrades, puis la caméra tombe sur Éric Guy. Pas de réaction. Je me dis, c'est qui ça? Un petit peu plus tard, au cours du match, on leur présente un nouveau, mais là, il y a une inscription, Éric Guy, champion du monde, ski alpin. Et là, les gens l'applaudissent. Mais la première fois, il est passé à l'écran, aucune réaction, les gens ne le connaissaient pas. Je te dis, il y a trois semaines, un mois, je suis au Carrefour Laval avec mon épouse. On fait une petite séance de magasinage. Là, je vois un gars s'en venir avec sa femme, ses petites filles, Jamadène. Je dis, regarde, c'est Éric Guy. Faisait son magasinage. Pas personne. Les gens le croisaient, savaient même pas c'était qui. Même moi, c'est sa casquette Red Bull qui a attiré mon attention. Mais je te dirais que un des plus grands champions, un des plus grands athlètes de l'histoire du Canada qui a passé une carrière incognito chez nous. Je trouve que même Alex Harvey était passé devant lui au niveau de la notoriété au Québec. Éric Guy était une grande vedette partout à travers la planète. Mais chez nous, je peux te dire une chose, même toi, là, tu l'aurais croisé, puis je pense que tu l'aurais même pas reconnu. Un joueur de 4e trio chez le Canadien va attirer l'attention, mais Éric Guy, un des plus grands athlètes de l'histoire du Canada, un modèle,
ouais. Jamais
une coche de travail. Il prend sa retraite. J'espère que les gens vont le croiser sur les pentes de ski à Tremblant, puis ils vont le remercier.
Oui, t'as raison de mentionner. C'est souvent, malheureusement,
la rançon de la gloire,
Non, pas la rançon de la gloire, mais chez les athlètes amateurs, ça arrive souvent. Tu sais, qu'on a une grande championne, nous autres, Laurence Vincent Lapointe.
Nous,
on la connaît, puis on la reconnaît parce qu'on la reçoit, puis on lui parle là, à l'occasion. Mais elle se promène à Trois-Rivières, puis malheureusement, la plupart des gens ne la reconnaissent pas, puis c'est une grande championne. C'est ça qui est plate.
Bon. En tout cas, c'était un athlète exceptionnel, bravo, mais là, il y a un vide. Comment va-t-on créer ce vide-là? Moi, de temps en temps, j'écoutais ça, la Coupe du monde de ski.
Ouais.
Malheureusement, c'était présenté en streaming, mais on n'a pas ça à la télévision québécoise. À CBC, on présente toujours les épreuves de la Coupe du monde de ski. Et ça, lorsque Éric Guy était en piste, c'est sûr que je m'installais, je voulais le voir descendre de la façon dont il allait se débrouiller. Mais avoir réussi durant 18 ans de carrière en Coupe du Monde à se maintenir au plus haut niveau malgré ses blessures. Je m'imagine un peu comme Mario Lemieux, s'il n'avait pas été blessé, s'il n'avait pas eu ses blessures au dos, quel palmarès Éric Guy nous présenterait à la fin de sa carrière. Je pense que ce serait pas mal plus impressionnant que ça l'a été.
Oui, je suis d'accord. OK. Shea va revenir la semaine prochaine?
Oui, mardi prochain, il va jouer contre les Hurricanes de la Caroline. Il faut pas oublier que là, On doit jouer en fin de semaine. On joue cet après-midi à 4 heures contre les Sabres de Buffalo.
Ouais.
Et on va jouer samedi contre les Bruins de Boston. On a rappelé Brett Kulak du Rocket de Laval. Ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait content du personnel de défenseurs. Là, on veut évaluer tout le monde parce qu'on a des décisions bientôt à prendre du côté des défenseurs avec le retour de Shea Weber. Il y en aura un surplus. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gars-là? N'oublions pas qu'on est allé chercher Brett Kulak qui avait bien fait chez les Flames de Calgary la saison dernière, qui était jusqu'à maintenant le meilleur défenseur offensif, en tout cas le plus productif chez le Rocket de Laval. On veut lui donner une chance. Comment donner une chance à Chaput parce qu'on n'était pas content des performances des joueurs de quatrième trio? Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il faut multiplier les compétitions à l'interne. Il faut forcer les joueurs à se tenir sur le bout des orteils sans savoir ce qui les attend. Jouer, ça, des fois, c'est un côté noir parce que certains joueurs vont mal réagir au fait de ne pas se retrouver dans leurs pantoufles, mais il faut, à l'interne, motiver des troupes, envoyer les meilleurs sur la patinoire et inciter ceux qui sont installés dans les gradins là à travailler plus fort, à être plus constants dans leur performance, parce que c'est ça qui manque à la défensive chez le Canadien. Puis il faut se préparer autour de Weber pour avoir de bons duos défensifs, avoir une bonne première puis une bonne deuxième paire de défenseurs. Je pense que c'est possible. On verra ce que ça va donner dès le retour de Weber la semaine prochaine.
Mais dis-moi, Michel, hier, aux amateurs de sport, wow, il y avait une conversation, entre autres, avec Jérémy Rainville, Martin McGuire, et sans le confirmer, Martin, pas craignait, mais pensait peut-être qu'on allait renvoyer Mété à Laval. Penses-tu que c'est possible?
Mais écoute, je vois pas de progression dans son jeu.
Ah, on est d'accord.
Il s'améliore pas. Puis, il va falloir prendre des décisions tout en évitant de perdre des joueurs. Dans le cas de Mété, tu peux l'envoyer dans les rangs mineurs. Il n'y a pas besoin de passer au balotage. C'est peut-être une des options qui s'offre à Marc Bergevin. Et peut-être que travailler avec Joël Bouchard et son groupe d'entraîneurs, il faut absolument... C'est le même gars que l'on a vu l'an passé. C'est dans des circonstances exceptionnelles qu'il s'est mérité un poste. On n'avait jamais vu ça ou à peu près. Puis là, je le vois aller... Si ce petit gars-là n'est pas capable de mettre des points au tableau, faut que tu aies une étiquette dans le front, Catherine.
Ah, je suis d'accord.
T'es un défenseur offensif ou t'es un défenseur défensif?
Ouais.
C'est pas un défenseur défensif, ça c'est sûr. C'est pas un défenseur qui se sert de son physique parce qu'il y en a pas, donc il peut pas se débrouiller à ce niveau-là. Tu peux pas le faire jouer en désavantage numérique parce qu'il y a pas le physique pour le faire. Puis en avantage numérique, il le fait pas jouer non plus parce que il a pas le lancer, il orchestre une bonne première passe, puis il va patiner avec la rondelle. Mais à part ça, souvent, là, ça mène à rien. Puis il n'y a pas de points au tableau. C'est bien beau, là, mais il n'y a pas de production. Quand tu es dans la Ligue nationale, tu as beau avoir bien des qualités, mais il faut que tu produises.
Mais observation, puis corrige-moi, on va retourner au camp d'entraînement.
Ouais.
Parce qu'on parle de Mété, mais je vais te donner l'exemple de Riley, OK, qu'on a mis sur le banc pendant quelques matchs, qui est revenu, bon, qui a marqué l'autre jour. Mais est-ce que ça se peut que... on dit maintenant aux défenseurs, wow, là, ça va tellement mal défensivement que prenez votre gaz, restez en arrière. Parce que Riley, là, au camp d'entraînement, il impressionnait en raison du fait qu'il se portait à l'attaque. Il était,
moi, j'ai pas de trouble. J'ai pas de trouble avec ça, Catherine.
Oui, mais c'est parce que ça donne les résultats qu'on connaît. Il n'y a plus un défenseur qui ose s'avancer à part Petrie, tu sais.
Non, mais je pense que les gars s'aventurent encore.
Ouais.
Sauf que les coachs, c'est naturel. Ta première job quand t'es un défenseur, c'est de défendre. Puis ils défendent bien mal. Puis c'est pas souvent parce qu'on se fait prendre à deux contre un. Des revirements, il y en a eu. Peut-être lorsque le défenseur se porte à toute vapeur vers l'avant, c'est qu'il y a quelqu'un du côté des attaquants qui prend pas sa place en arrière. Moi, que les défenseurs se joignent à l'attaque, puis ils foncent vers la zone ennemie, j'ai pas de trouble. Revenez, mais c'est dans leur position de defender qu'ils ont du trouble. Ils ont de la misère à jouer, à lire le jeu. Ils commettent des erreurs bêtes, des erreurs de concentration, de positionnement. Ils ont pas de bâton actif. C'est pas sur la phase offensive du jeu qu'ils ont de la difficulté, c'est sur la phase défensive. Puis ça, ça demande du travail. Puis quand tu l'as pas, tu sais, il y a des gars qui ont un... Je trouve que depuis le début de la saison, un qui s'organise assez bien défensivement, c'est Ben. C'est pas le meilleur en attaque, c'est pas le meilleur défenseur du Canadien, mais défensivement, si tu regardes les performances depuis le début de l'année, le gars qui s'est le mieux débrouillé défensivement parlant, c'est Ben.
Oui, Mais
disons qu'il y a une prise contre lui parce que l'année qui a passé, l'année dernière, nous porte à avoir un jugement assez négatif dans son cas.
Ouais.
Mais défensivement, il s'en tire bien. Mais Petrie a de la misère défensivement. Hasner est plus capable de bouger. C'est là que Weber va emmener. Il faut se resserrer. Défensivement, là, il faut que nos joueurs apprennent à défendre le périmètre autour du filet. Tu as vu, lors des derniers matchs, on a reculé beaucoup trop en direction du gardien de but. On a laissé l'espace vide au centre de la patinoire à 25 pieds du filet. Puis un marqueur à 25 pieds du filet, là, il y a des chances de la mettre dedans à Moses. Le gardien de but n'a quasiment pas de chance de réagir. Il faut se retrouver. Et là où Weber va faire une différence, c'est que lui, il brille dans ce périmètre-là. Puis il prend de la place physiquement. Puis il va donner confiance à celui qui va jouer à sa compagnie.
Okay.
C'est une Moses de bonne nouvelle. Son retour pouvait pas arriver à un meilleur moment pour le Canadien.
On s'entend. Et là, t'en files un petit peu, Michel, mais je veux juste peut-être une petite minute sur ce match. Cette partie entre Tiger et Phil Mickelson.
Ouais.
Comment ça fonctionne? Faut-tu être abonné? Faut l'acheter?
Oui, 19,99$.
Ah oui? Vas-tu acheter ça, toi?
Non.
Donc, ça se passe à Vegas, mais c'est quoi exactement l'événement?
À Shadow Creek, là où j'ai joué, c'est tout à fait extraordinaire.
ça se glisse bien dans une conversation, mon
Monsieur. Ça va bien. C'est un terrain de rêve. Ça sera dans des circonstances de rêve également. Écoute, il y aura plusieurs choses intéressantes au niveau de la diffusion du match lui-même. Il va y avoir des drones au-dessus du terrain. Il y a un paquet de bobelles technologiques qu'on va amener, qui vont être utilisées pour la première fois pour améliorer la compréhension puis le spectacle à la télévision. Mais il y a 9 millions que les commanditaires payent et il y aura seulement un seul gagnant. Il y en a un qui approche 9 millions, le perdant n'a rien. Moi, dans ces circonstances, ces deux gars proviennent de la Californie. Ils ont passé leur jeunesse là. Moi, j'aurais dû écouter un peu les boys de 9 millions. Enfin, peut-être qu'ils vont le faire. Là. Peut-être qu'à la fin de la journée, ils vont dire, gars, la bourse, là, autant Mickelson que Tiger Woods n'en ont pas besoin. Sais-tu ce que tu devrais faire à l'occasion de cette fin de semaine de l'Action de grâce? Prendre l'argent, puis la remettre au sinistré des feux de la Californie.
Ah oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord.
Si on faisait ça, là, ça redonnerait une certaine forme de grandeur à ces deux athlètes-là. Ils n'en ont pas besoin. Ils vont donner un show. Les gens payent pour voir ça. Moi, Tiger puis Phil Mickelson, 20 ans en arrière, là, à leur meilleur, oui. Mais aujourd'hui, je peux pas dire que ce sont deux has-been, mais c'est pas le même magnétisme qu'il y a 10 ans passés. Je sais pas combien de gens vont louer ça. Il y a plusieurs matchs de football aujourd'hui au niveau collégial. Il y a beaucoup d'activités. Par exemple, au Québec, est-ce que les gens vont préférer payer 20$
non.
Pour regarder Tiger puis Phil plutôt que de regarder le Canadien à 4 heures gratis contre Buffalo?
C'est parce que si c'était gratuit, je te dirais que ce serait partagé, mais à partir du moment où tu payes, je sais pas, Michel.
Moi, je te dis, si j'avais eu rien à faire entre 3h et 4h avant le match de hockey, j'aurais jeté un coup d'œil.
OK. Ouais,
mais je ne paierais pas pour voir ça.
Non, OK.
Je ne paierais pas pour voir ça.
Bon, bien, génial.
Même si je suis un maniaque de golf, là...
Oui, je sais, c'est ça, mais...
Ça ne vient pas me chercher.
Bien, imagine, Michel, tu sais, tu es un maniaque de golf, puis tu me réponds ça. Fait qu'on s'entend que monsieur, madame, tout le monde, ça risque d'être plus tranquille, du moins au Québec. On verra les chiffres aux États-Unis.
Le seul point d'intérêt, ce serait de voir les nouvelles technologies qu'on va utiliser pour améliorer la présentation télévisuelle du golf. Ça, si j'avais un point d'intérêt, c'est de dire, oh... On le débrouille à 3h15. Là. Bon, j'encadrerais pour voir quelle babelle qui est agréable et qu'est-ce que va emmener. Okay. Sinon, si vous voulez me faire mentir, les gars, prenez le 9 millions,
c'est ça. Ouais.
Un des deux, puis donnez-le aux victimes des fins en Californie. Puis là, on va dire « wow ».
OK. Michel, je te souhaite une belle fin de semaine. On va s'en
bonne
parler.
Bonne chance pour la Coupe Vanier
en fin de semaine. On manque de temps un petit peu là-dessus. Fait qu'on 7h53.
Négatif.
Michel, là. Je comprends.
Je vais le regarder pareil.
Regarde-le, puis tu nous feras un bilan. Tu n'en as même pas parlé de boxe. Oui, c'est ça. Mais avant de parler de la Coupe Vanier, tant qu'à moi, on en aurait dû même parler de Jean-Pascal, mais là, le temps nous manque. OK, on s'en parle lundi.
Dernier combat à HBO, dernier gala. Ouais. C'est la fin d'une grande histoire de la boxe à HBO.
Exactement. Déjà hâte de te reparler lundi. Salut, bon week-end.
Ah, maudit que c'est le fun d'entendre ça.
Absolument.
Bye.
Salut, bye-bye. 7h53.